Emmanuel Kant, prolégomènes à toute métaphysique future, qui aura le droit de se présenter comme science. Solution. Solution de la question générale des prolégomènes. Comment la métaphysique est possible comme science? La métaphysique, comme disposition naturelle de la raison, est réelle. Mais en elle-même, comme le prouve la solution analytique des trois principales questions, elle n'est que dialectique et trompeuse. Si donc nous voulons en tirer des principes, et dans leur usage, suivre l'apparence à la vérité naturelle, mais fausse néanmoins, la science n'en pourra jamais sortir. Il n'en résultera qu'un vain art dialectique, qui donne l'avantage à une école sur une autre, mais où aucune ne peut jamais acquérir un assentiment légitime et durable. Afin donc qu'elle puisse, comme science, prétendre non seulement à une légitime persuasion, mais à une connaissance et à une conviction, une critique de la raison même doit exposer toute la provision des notions a priori, leur division suivant leurs origines diverses, la sensibilité, l'entendement et la raison, donner en outre une table complète de ces notions, leur analyse avec tout ce qui peut s'en suivre, mais en cela surtout la possibilité de la connaissance synthétique a priori par le moyen de la déduction des notions, les principes de leur usage, enfin les limites de cet usage et le tout en un système parfait. La critique contient donc, et seule elle est dans ce cas, tout le plan, bien examiné et prouvé, tous les moyens même d'exécution en soi, d'après lesquels une métaphysique peut être réalisée comme science. Elle n'est pas possible par d'autres voies et moyens. On se demande donc ici, non pas tant comment cette œuvre est possible, que la manière de la commencer et de faire abandonner aux bons esprits un travail jusqu'ici mal entendu et stérile pour une occupation qui ne soit pas trompeuse, et comment une telle association peut être le plus heureusement conduite à une fin commune. Il est certain en tout cas que celui qui a une fois goûté de la critique ne peut plus se contenter de tout ce bagage dogmatique dont il fallait bien qu'il se payât auparavant, parce que sa raison avait besoin de quelque chose et qu'il ne pouvait rien trouver de mieux pour son usage. La critique est donc à la métaphysique scolastique ordinaire tout juste, comme la chimie à l'alchimie, ou comme l'astronomie à l'astrologie. Je garantis que quiconque aura examiné et compris les principes de la critique, ne fût-ce que dans ses prolégomènes, ne retournera jamais à cette ancienne et sophistique science d'apparence. Il s'élèvera, bien plutôt, avec une véritable satisfaction à une métaphysique qui est certainement en sa puissance, qui n'a plus besoin de découvertes préliminaires et qui peut procurer à la raison un contentement durable. Car un privilège auquel la métaphysique seule, entre toutes les sciences possibles, peut prétendre avec certitude, c'est d'être exécutée pleinement et à demeure, puisqu'elle ne demande aucun changement et qu'elle n'est pas susceptible d'augmentation par de nouvelles découvertes. Parce qu'ici, la raison possède les sources de sa connaissance, non dans les objets, et leur intuition, qui ne peut rien lui apprendre de plus, mais en elle-même. Et que si elle a exposé déterminément, complètement, et de manière à prévenir tout malentendu, les lois fondamentales de sa faculté, il ne reste plus rien à connaître a priori par la raison pure, rien même qu'elle puisse raisonnablement se demander. L'attente assurée d'un savoir ainsi déterminé et achevé a en soi un attrait particulier, abstraction faite de toute utilité, dont je parlerai cependant tout à l'heure. Toute science fausse, toute vaine sagesse n'a qu'un temps. Elle finit par se détruire elle-même, et sa plus haute culture est en même temps le point de sa décadence. Que ce temps soit venu pour la métaphysique, c'est ce que prouve l'état où elle est tombée chez tous les peuples éclairés, quoiqu'elle ait été cultivée avec le même zèle que toutes les autres sciences. L'ancienne organisation des études universitaires en conserve encore l'ombre. La seule Académie des sciences, par dépit qu'elle propose de temps en temps, provoque une recherche ou une autre en métaphysique. Mais cette science n'est plus regardée comme l'une des fondamentales. Et l'on peut même juger comme un homme d'une haute intelligence qu'on voudrait appeler un grand métaphysicien prendrait cet éloge, parti d'un esprit bien intentionné mais difficilement envié de personne. Mais quoique le temps de la chute de toute métaphysique soit indubitablement arrivé, beaucoup de choses sont encore à désirer cependant, pour qu'on puisse dire que du temps de sa résurrection, au moyen d'une fondamentale et entière critique de la raison, soit arrivé déjà. Toutes les transitions d'une inclination à l'inclination contraire s'opèrent en passant par l'indifférence. Et ce moment est le plus périlleux pour un auteur, mais c'est à mon sens le plus favorable à la science. Car si par l'entière dissolution des anciennes associations, l'esprit de parti se trouve éteint, les intelligences sont dans une excellente disposition pour entendre insensiblement les propositions d'une association basée sur un autre plan. Si je dis que j'espère que ces prolégomènes porteront peut-être aux investigations dans le champ de la critique et offriront un esprit général de la philosophie qui semble manquer d'aliments dans la partie spéculative, un objet d'occupation nouveau et beaucoup plus fécond, c'est que je puis déjà me figurer à l'avance que quiconque a éprouvé de l'impatience et de l'ennui en passant par les voies épineuses où je l'ai conduit dans la critique me demandera sur quoi je fonde cet espoir. Je réponds sur l'irrésistible loi de la nécessité. Que l'esprit de l'homme abandonne un jour entièrement les recherches métaphysiques, c'est à quoi il ne faut pas plus s'attendre qu'à ne plus respirer du tout pour ne plus absorber l'air impur. Il y aura donc toujours dans le monde, et ce qui est plus encore, dans chaque homme, surtout chez celui qui réfléchit, une métaphysique qu'à défaut d'une règle publique, chacun se formera à sa manière. Or, si ce qui s'est appelé jusqu'ici métaphysique ne peut satisfaire aucun esprit qui réfléchit, il lui est cependant impossible d'y renoncer entièrement. Une critique de la raison pure même doit donc enfin être cherchée, ou si elle existe, être étudiée et soumise à un examen général, parce qu'autrement, il n'y a pas moyen de se garantir du besoin pressant qui est encore quelque chose de plus qu'un simple désir de savoir. Depuis que je connais la critique, je n'ai pas pu ne point me demander, après avoir lu un ouvrage métaphysique qui m'avait intéressé et formé par la détermination de ses notions, par la diversité, l'ordre et la clarté de l'exposition, si cet auteur avait fait avancer la métaphysique d'un seul pas. J'en demande pardon aux savants dont les ouvrages m'ont servi à d'autres égards et ont tous contribué au développement de mes facultés. Mais je confesse que je n'ai pu trouver dans leurs travaux, ni dans mes faibles essais, auxquels cependant l'amour-propre donne avantage, que la science est par là fait le moindre progrès. Et cela par la raison toute naturelle que la science n'existait pas encore et qu'elle ne peut être faite partiellement, mais que le germe en doit d'abord être entièrement préformé dans la critique. Mais pour éviter tout malentendu, il faut se rappeler ce qui a été dit précédemment, qu'un traité analytique de nos concepts est sans contredit fort utile à l'entendement, mais que la science de la métaphysique ne s'en trouve pas plus avancée, parce que ces analyses des notions ne sont que des matériaux qui doivent enfin servir à la construction de la science. Ainsi, l'on peut très joliment décomposer et déterminer les notions de substance et d'accident, ce qui est fort bon comme préliminaire pour un usage futur. Mais si je ne puis absolument pas prouver que dans tout ce qui existe, la substance reste, que les accidents seuls changent, la science n'a pas avancé d'un point par toute cette analyse. Or, la métaphysique n'a pu, jusqu'ici, prouver a priori, d'une manière satisfaisante, ni cette proposition, ni la proposition de la raison suffisante, bien moins encore quelques propositions plus composées, appartenant par exemple à la psychologie ou à la cosmologie, et en général, aucune proposition synthétique. Rien donc, par toute cette analyse défectuée, rien d'acquis, point de progrès. Et la science, après tant de tumultes et de bruits, en est encore où elle était du temps d'Aristote. Quoique les méthodes qui y conduisent, n'eût-on trouvé que le fil conducteur pour les connaissances synthétiques soit incontestablement supérieur à celle d'autrefois. Si quelqu'un se croyait offensé par là, il peut facilement détruire cette inculpation. Il n'a qu'à signaler une seule proposition synthétique appartenant à la métaphysique qu'il ait démontrée dogmatiquement a priori. S'il le fait, je lui accorderai qu'il a réellement fait avancer la science, dû cette proposition être d'ailleurs suffisamment établie par l'expérience commune. Aucune demande ne peut être plus équitable et plus modérée. Et dans le cas, inévitablement certain, où elle serait sans réponse, rien de plus juste que cette assertion. La métaphysique, comme science, est nulle jusqu'ici. Je n'ai que deux choses à repousser pour le cas où mon appel serait écouté. Le jeu de la vraisemblance et de la conjecture, qui conviennent aussi peu à la métaphysique qu'à la géométrie, la décision par la baguette divinatoire du sens commun, qui ne tourne pas pour chacun mais qui s'accommode aux qualités personnelles. En ce qui regarde le jeu de la vraisemblance, rien ne peut être plus absurde que de vouloir fonder dans une métaphysique, dans une philosophie par raison pure, ses jugements sur une vraisemblance et une présomption. Tout ce qui doit être connu a priori est par la même donnée pour apodictiquement certain et doit en conséquence être prouvé de la sorte. Autrement, on pourrait aussi bien fonder une géométrie ou une arithmétique sur des conjectures. Car en ce qui regarde le calculus probabilium de cette dernière science, il ne contient pas des jugements vraisemblables, mais des jugements tout à fait certains sur le degré de possibilité de quelques cas, sous des conditions uniformes données, qui doivent se rencontrer infailliblement suivant une règle, dans la somme de tous les cas possibles, quoique cette règle ne soit pas suffisamment déterminée par rapport à chaque cas particulier. Les conjectures ne sont permises que dans la science empirique, à l'aide de l'induction et de l'analogie, de telle sorte, cependant, que du moins la possibilité de ce que j'admets soit parfaitement certaine. Quant à l'appel au bon sens, c'est encore pire, si cela se peut, lorsqu'il s'agit de notions et de principes, non pas en tant qu'ils doivent être valables par rapport à l'expérience, mais en tant qu'ils doivent être donnés comme valables en dehors même des conditions de l'expérience. Car qu'est-ce que le bon sens? C'est le sens commun, en tant qu'il juge sainement. Et qu'est-ce que le sens commun? C'est la faculté de la connaissance et de l'usage des règles in concreto, par opposition, avec le sens spéculatif, qui est une faculté de connaître les règles in abstracto. Ainsi, le sens commun entendra à peine la règle que tout ce qui arrive est déterminé par sa cause. Mais il ne pourra jamais voir ainsi en général. Il demande donc un exemple tiré de l'expérience. Et s'il comprend que cela ne signifie autre chose que ce qu'il a toujours pensé quand sa fenêtre était cassée ou qu'un meuble lui avait été enlevé, il comprend alors le principe et l'accorde également. Le sens commun n'a donc d'autre usage que de voir ses règles, quoiqu'elles soient en lui a priori, confirmées dans l'expérience. Par conséquent, les apercevoir a priori et indépendamment de l'expérience est l'affaire de l'entendement spéculatif et dépasse tout à fait l'horizon du sens commun. Et cependant, la métaphysique ne s'occupe que de la dernière espèce de connaissance, et c'est à coup sûr un mauvais signe du sens commun d'en appeler à un garant qui est ici sans jugement, et qu'on dédaigne fort quand on n'est pas poussé à bout et qu'on peut se tirer seul d'affaire dans sa spéculation. C'est une défaite ordinaire dont ces faux amis du sens commun, qui le prisent dans l'occasion mais qui d'ordinaire le méprisent, ont l'habitude de se servir, que de dire qu'il doit enfin y avoir des propositions immédiatement certaines et dont non seulement on ne peut donner aucune preuve, mais dont on ne peut non plus rendre raison, parce qu'autrement, il n'y aurait pas de terme au motif des jugements. Mais ils ne peuvent jamais donner d'autres preuves de ce droit. Si l'on accepte le principe de contradiction, mais qui ne suffit pas pour établir la vérité des jugements synthétiques, quelque autre chose d'indubitable qu'il puisse immédiatement attribuer au sens commun que des propositions mathématiques. Par exemple, que 2 et 2 font 4, qu'entre deux points, la ligne droite est la plus courte, etc. Mais ce sont là des jugements qui diffèrent totalement de ceux de la métaphysique, car je puis, en mathématiques, exécuter, construire par la pensée même, tout ce que je conçois possible par une notion. J'ajoute à deux unités deux autres unités successivement, et je forme ainsi le nombre 4. Ou je tire par la pensée d'un point à un autre toutes sortes de lignes, et je n'en puis tirer qu'une seule, dont toutes les parties, égales ou inégales, se ressemblent. Mais je ne puis tirer de la notion d'une chose, par toute ma faculté pensante, la notion de quelque autre chose dont l'existence est nécessairement lié à la première. L'expérience doit être consultée, et quoique mon entendement me donne a priori, toujours par rapport à l'expérience possible seulement, la notion d'une pareille liaison de la causalité, je ne puis cependant pas l'exposer en intuition a priori comme les notions mathématiques, ni par conséquent en faire voir la possibilité a priori. Mais cette notion, avec les principes de son application, a toujours besoin, pour valoir a priori, comme il le faut bien en métaphysique, d'une justification et d'une déduction de sa possibilité. Ce n'est qu'à cette condition qu'on en sait la portée légitime, et si elle ne peut être employée que dans l'expérience ou bien encore en dehors d'elle. On ne peut donc en métaphysique, comme science spéculative de la raison pure, en appeler jamais au sens commun. Mais bien, s'il le faut, l'abandonner et renoncer à toute connaissance spéculative pure, qui doit toujours être un savoir, par conséquent, à la métaphysique même et à son enseignement, en certaines occasions. Une foi raisonnable, seule possible à nous, sera estimée suffisante, peut-être plus salutaire encore que le savoir, pour nos besoins. Car alors, la face des choses est entièrement changée. La métaphysique doit être une science, non seulement dans son ensemble, mais aussi dans toutes ses parties. Autrement, elle n'est rien, parce que, comme spéculation de la raison pure, elle ne peut se maintenir que dans les connaissances universelles. Mais en dehors d'elle, la vraisemblance et le bon sens peuvent bien encore avoir leur usage utile et régulier, mais suivant des principes tout à fait propres, dont le poids dépend toujours du rapport à la pratique de la vie. Voilà ce que je crois avoir le droit d'exiger pour qu'une métaphysique soit possible comme science.